Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
Et revoilà les vieux fourneaux. Donc aujourd'hui, une émission spéciale avec donc le secrétaire national du groupe français d'éducation nouvelle. Et Michel Ducom donc va nous expliquer ce qu'il pense de cette nouvelle réforme des groupes de niveau.
Alors, d'abord, je ne suis pas secrétaire national, je suis président de la région.
Oh, pardon.
J'ai été longtemps secrétaire national, mais je ne le suis plus. Je suis retraité, donc place aux jeunes. Là, cette réforme, les questions qui se posent, c'est comment c'est possible de faire des propositions pareilles. La ministre de l'Éducation nationale, Belloubet, a été rectrice et elle était contre une éducation avec des groupes de niveau. Et voilà qu'une fois nommée ministre, elle se plie aux injonctions. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une véritable résistance à cette idée. Certainement parce que ça vient d'en haut. La première idée, je crois que ce n'est pas sur le fond, c'est sur la méthode. On est dans une situation où aujourd'hui, ce qui arrive du ministère a été, après les années Blanquer et puis toutes les erreurs qu'il y a eu des ministres précédents, ce qui arrive du national est soupçonné. Il a été vérifié très souvent que c'était très difficile au niveau des applications, que ça altérait la vie des enseignants, des parents, des enfants, des adolescents. Et on sent bien que, à force de parler de réformes possibles qui ne tiennent pas dans la durée ou qui ne correspondent pas à la réalité du terrain, on sent bien que les gens se sont éloignés de cette idée. Le centre ne peut plus produire culturellement quelque chose de solide par rapport aux questions de la pédagogie ou de l'éducation. Ce n'est pas simplement parce que le pays n'est pas en accord avec ce qui arrive de Paris. C'est parce qu'il y a une déception qui s'est inscrite dans la durée, qui a été accompagnée des déceptions d'un personnel enseignant ou périphérique aux enseignants. Il y a beaucoup de gens qui travaillent autour des enseignants. Il n'y a pas que le prof qui sont en classe. Il y a aussi les gens qui balayent, les techniciens de surface, les gens qui accompagnent des enfants en difficulté. Il y a toute une série de professions.
Les assistantes sociales.
Par exemple, les infirmières, le peu d'infirmières qui restent. On a toute une série de professions qui a été marquée par le fait que ils ont été marginalisés du point de vue des considérations, en particulier sur le plan des salaires, mais aussi sur le plan des revendications de reconnaissance. Donc il y a ça, mais il y a autre chose qui se passe. L'accumulation de réformes de la part d'un ministère qui n'abolit jamais la réforme précédente, mais qui empile de nouvelles injonctions sur des injonctions passées qui ne sont pas allées au bout, ou qui n'ont pas été pertinentes, fait qu'on ne croit plus à ce qui vient culturellement du centre. C'est une situation grave, parce qu'elle n'est pas entièrement conscientisée à l'heure actuelle. Alors, j'ai l'impression que les réactions se font au coup par coup. Il y a très longtemps que nous, les mouvements pédagogiques, on lutte contre cette idée des groupes de niveau. Très, très longtemps. Mais cette fois, on sent bien que les concernés eux-mêmes ne sont pas d'accord avec ça. Alors, d'où vient ce désaccord ? Par exemple, les parents ont fait dans le sud Gironde, là, il y a cette semaine, on fait une opération collège et lycée mort, qui a fortement fonctionné. C'est de l'ordre de 8% la participation en moyenne dans tout le sud Gironde. Il n'y a pas un collège qui a été à l'écart de ce mouvement. C'est très, très étonnant. Et ce sont les parents. En principe, quand les parents se mettent en jeu, les ministères sont plus attentifs que lorsqu'il y a uniquement les professionnels. Ce n'est pas pareil pour la santé. C'est des malades restant leur lit. Mais les parents, ils ont quelque chose de très précieux à défendre. Ce sont leurs enfants, leur avenir. Ils ont déjà travaillé sur la question. Ils ont des stratégies sur l'avenir de leurs enfants, plus ou moins valables, mais ils les ont. Et ils sont fortement concernés. Donc, on s'aperçoit que la question des groupes de niveau est devenue une question pédagogique centrale, très forte, capable d'arrêter le travail. C'est ce qui est quelque chose de nouveau. Par rapport à il y a 20 ans, c'est un progrès considérable. Il y a 20 ans, des enseignants encore, de bonne volonté souvent, disaient « Oui, mais les groupes de nouveau, ça permet d'accompagner des enfants en difficulté. » Mais cet argument ne fonctionne plus. D'abord parce qu'il y a eu l'expérience des échecs, et puis aussi parce qu'il y a une aspiration à ce que les enfants se trouvent avec des partenaires qui soient d'un bon niveau. Même dans les familles où les enfants se conduisent bien à l'école parce qu'ils marchent bien, parce que ça va bien, puis quelle que soit la pédagogie, on sent qu'ils vont réussir. Il n'empêche que les parents sont tout à fait conscients que s'ils sont accompagnés d'enfants qui sont à la traîne, leurs propres enfants vont en souffrir. Et ça les mobilise. Ça les mobilise. Ils veulent une école qui soit riche. Certains, d'ailleurs, se mobilisent très mal. Il y a des enseignants qui mettent leurs enfants dans des écoles privées en tant que stratégie pour avoir la paix avec le reste des enfants qu'on trouve dans les quartiers difficiles, par exemple, dits difficiles, qui sont des formidables quartiers de richesse. Mais il ne faut pas oublier quand même que l'école publique est très puissante en France. Ça, on l'oublie souvent, on la critique sans arrêt, mais elle est très puissante. Elle représente, par rapport à l'Europe, elle représente beaucoup plus des trois quarts des classes en France. Il y a une force considérable. Le gouvernement essaie de l'attaquer par tous les bouts. Il ne faut pas oublier ces vieilles directives européennes qui ont toujours été suivies. Si vous voulez faire disparaître une institution qui vous gêne, il faut la critiquer. Et puis ensuite, une fois que le public s'éloigne, on peut l'attaquer et la réformer. Cette stratégie, qui est toujours appliquée, elle est appliquée pour la santé en France, elle est appliquée pour l'école, elle peut être appliquée n'importe quelle institution, l'armée, une église, on peut l'appliquer comme ça, une religion, on peut faire la même chose. On sent bien que ce sont des stratégies qui sont peu pensées, peu réfléchies, mais qui sont extrêmement efficaces. Et là, ça s'arrête. Alors pourquoi ça s'arrête? C'est parce qu'il y a une aspiration, on va dire populaire, à ce que l'école remplisse un rôle qu'elle ne remplit pas assez. Et cette aspiration populaire, elle devient puissante. Elle est en train de se manifester.
D'ailleurs, à ce niveau-là, on s'est rendu compte que dans les manifestations qu'on organise maintenant, depuis le mois de janvier, hein, dans tout le pays, on se rend compte que, en fait, les trois fédérations de parents d'élèves, qui sont d'habitude pas toujours proches idéologiquement, donc que ça soit la FCPE, la PEP et la APE, les autonomes, sont tous ensemble pour demander l'abrogation du choc des savoirs.
Alors cette abrogation, il me semble qu'elle est extrêmement utile. Parce que si elle se met en place, elle empêche, surtout avec les groupes de niveau, elle empêche d'engager une véritable réforme concernant les savoirs. Quand on met des élèves dans des groupes moyens ou faibles, on fait deux grosses erreurs. La première, c'est de penser que ça va leur permettre, en revoyant des bases, d'avancer. Ça, c'est une erreur considérable. Vous avez un enfant, ça ne marche pas en mathématiques. Qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui redonner des mathématiques? Je veux dire que ce n'est pas terrible comme situation.
Même principe pour le redoublement.
Pareil, c'est la même affaire. Tu n'aimes pas l'école, donc on va te donner un peu plus d'école. Mais sur les savoirs, tu n'aimes pas ça, on va te... Ce qui fait que c'est un moyen de dégoûter les enfants. Et le deuxième aspect est plus difficile à voir, mais il est réel, c'est que ça conduit les enfants à avoir une image d'eux-mêmes qui est fausse. Ils se trouvent assistés. Or, un enfant, par une fois les premières années d'assistance de l'entourage, son avenir, ce qui sent, ce qui le motive, c'est le fait qu'il va grandir, c'est-à-dire se passer d'aide, se passer d'assistance. Or, devenant enfant assisté, il régresse dans sa propre image. Et comme à côté de lui, il voit des niveaux différents qui circulent à des vitesses différentes, parce que dans la société, il y a des niveaux culturels différents, il y a des gens qui sont proches de l'école, et puis il y en a qui ne sont pas proches de l'école. Il y a tout ça, et au lieu d'être une richesse, c'est vécu de manière inégalitaire. Ces enfants se disent, puisque les autres réussissent et pas moi, mon image, c'est que je ne suis pas doué pour réussir. Et on revoit la vieille idée des dons, qui est terrible, qui a fait un dégât considérable, qui est toujours en piste depuis la libération, on peut dire. Le plan Langevin-Wallon, on n'avait pas aboli les dons. Il ne faut pas l'oublier. Il disait, le plan Langevin-Wallon, que les enfants devaient, avec ce plan-là, à mettre en valeur leurs aptitudes particulières. Si ce n'est pas les dons, ça, je me demande ce que c'est. La première fois que j'ai dit ça en mon propre mouvement, c'est tout juste, et on ne m'a pas foutu dehors. Parce que c'était... mais c'était la vérité. C'est la vérité. Les aptitudes, c'est les dons. L'enfant qui dit je peux pas réussir parce que je suis placé dans le groupe des pas bons, c'est les dons. C'est les dons que l'enfant intègre. C'est-à-dire qu'il va naturaliser, comme si c'était parce qu'il avait quelque chose en lui qui l'empêchait d'être bien comme sûr. Les autres. Il va penser qu'en n'étant pas comme les autres, il va pas avoir le même parcours.
Alors, on a l'impression quand même que il y a quand même des choses intéressantes qui se passent. Il y a 6 DGESCO anciens qui viennent de faire une tribune pour critiquer donc la réforme et dire que ils ne sont pas du tout d'accord avec sa mise en place, d'autant plus qu'elle doit se mettre en place en septembre, en ayant fait une évaluation vite fait bien fait pour les élèves de CM2. Qu'est-ce que tu en penses?
D'abord, je salue ça, parce que d'habitude, dans la DGESCO, il y a beaucoup de rapports qui sont fournis, et il y a à peu près, on considère aujourd'hui qu'il y a 2/3 des rapports qui ne sont pas publiés. On n'y a pas droit, voilà, on ne peut pas en parler ici. Ils n'existent pas. Ils servent à quoi? Mais ils servent à nourrir la pensée des gens qui travaillent dans la DGESCO, à la direction de l'éducation. Donc, il y a un progrès de ce point de vue-là. Et en même temps, un acte de courage. Après, cet acte, il est basé sur les évaluations. Or, la question des évaluations est une question qui met en cause le concept même de savoir. Il faut dire que, d'abord, il y a une pétition, à ma grande satisfaction, qui vient de sortir là, il y a 10 jours.
C'est ça.
C'est ça. Une pétition d'un grand nombre de syndicats, d'ailleurs il y a un horizon très varié. Sur cette pétition, dit qu'il faut cesser avec les évaluations imposées. Ça fait 20 ans que je dis ça, que je me heurte.
Tu vois?
Je me heurte. Mais c'est incroyable, les attaques. Chaque fois que j'ai dit ça, je suis passé pour un ringard non scientifique. Parce que l'évaluation, ça a à voir avec la science. Ouais, il y a des évaluations qui sont scientifiques, et puis il y a des évaluations scientifiques pour que les laboratoires vendent des produits qui sont dangereux. Il y a la recherche n'est pas neutre et innocente. C'est pas parce qu'on fait une addition que l'addition va être forcément en faveur des uns ou des autres. Donc, il y a cette idée d'évaluation qui, sous des apparences de science, Mais c'est incroyable le temps qu'on a perdu. C'est incroyable. Et le rapport qui s'appuie sur des évaluations, là, il tombe en ce travers. Le temps qui a été perdu. En France, il y a 250 000 à peu près, à la louche, classes. 250 000 classes dans l'école publique, 30 000 dans l'école privée à peu près. C'est ça le rapport des nombres en France. On ne le voit jamais, ça, hein, pour chercher ça. Pour trouver ça, il faut chercher sur Internet, hein, je vous garantis. Et les chiffres ne sont jamais à jour. C'est toujours deux ans auparavant. Parce qu'on ne voit pas à quel point cette institution scolaire est puissante, forte, une institution publique. On a toujours l'impression qu'elle est battue en brèche, que le privé fait mieux, que l'avenir c'est de ce côté-là, le danger vient de ce côté-là aussi, parce qu'il y a les musulmans, les écoles coraniques, parce qu'il y a le ceci, parce qu'il y a des écoles privées où on veut, parce que les parents se mettent, etc. etc. Non, 30 000 classes seulement. 250 000 classes. 250 000 classes qui ont fait 20 ans d'évaluation. Oui. Mais vous vous rendez compte, le temps perdu en classe, des semaines entières à ne pas apprendre, mais à être évalué. Au lieu d'apprendre, on est évalué, c'est-à-dire on remplit des fiches qui sont préimprimées. Au lieu d'écrire un poème, une rédaction, un compte rendu, un article de journal scolaire ou de journal pour son quartier, qu'est-ce qu'on fait ? On bouche des trous avec de l'écrit.
Il y a peut-être un modèle de l'entrepreneuriat qui s'est appliqué à l'école publique.
Oui, même le pire des modèles. Parce que cette évaluation, moi j'ai connu des gens qui ont travaillé au ministère à la mise en place de cette évaluation, il y a bien longtemps. C'était une idée, c'était des gens de gauche qui voulaient transformer l'école, qui ont eu cette idée perverse. Aujourd'hui, on voit qu'elle est fausse et dangereuse. De se dire, on va mettre en place des évaluations avec des exercices qu'on appelait à l'époque des exercices renouvelés, des exercices différents. Comme ça, les profs, les instituts, les profs des écoles, les profs de collège, vont voir qu'il y a d'autres choses à faire. Au lieu de faire de la formation des profs, on leur a dit, passez des évaluations avec des nouveaux exercices. Comme vous serez en difficulté là-dessus, vous allez vous appliquer, pour que les élèves réussissent, à transformer votre enseignement pour qu'ils réussissent leurs évaluations. Mais vous vous rendez compte de la perversité du système très économique, hein, parce qu'une évaluation, ça ne coûte rien, à part imprimer les cahiers d'évaluation, les trucs qui servent à que dalle. À la fin, moi, j'ai connu des collèges qui foutaient les cahiers d'évaluation dans les caisses des déchets de la demi-pension. Voilà. Il n'y a jamais eu de plainte déposée pour ça. Pas de vague. Mais cette évaluation a fait perdre... On a raconté que les enseignants avaient trop d'absence. Les vacances, mais aussi la maladie, etc. Mais c'est le ministère qui a fait perdre du temps aux enfants. Ce n'est pas les enseignants absents. D'abord, des enseignants absents, il faut avoir un corps pour les remplacer. On les remplace par d'autres enseignants, ça existe. Il y a un passé, mais c'est comme ça qu'on doit faire. Non, on préfère faire des évaluations et perdre du temps, et en même temps cracher sur les enseignants qui, quand ils sont malades, vont se soigner chez eux, parce qu'autrement ils vont filer la grippe ou le Covid à tout le monde.
Il y a dans cette réforme quand même une chose qu'on ne dit pas beaucoup, mais en fait, au niveau du collège, les enfants vont perdre une heure d'enseignement par semaine. Et c'est quand même, là aussi, très étonnant, puisqu'on nous explique qu'il faut leur apprendre plus, mieux, etc. Mais en même temps, on leur enlève de l'enseignement.
Ce n'est pas en quantité qu'il faut qu'on raisonne. Même si c'est le fait qu'on leur enlève quelque chose, ça compte quand même. Hein. Surtout que ça arrive après de nombreuses réformes qui ont enlevé peu à peu. En 30 ans, on peut dire que le temps d'enseignement en français en 6e a été divisé par deux.
Carrément.
Oui, sur une trentaine d'années, c'est ça. D'une réforme à l'autre, par demi en
partie. On leur enlève des disciplines à chaque fois.
Alors, il y a aussi les disciplines. Et les disciplines qu'on leur enlève, elles sont très importantes, ouais. Ces disciplines. Faites du sport, faites des arts plastiques, faites de la musique. Il y a des enfants qui réussissent très bien là-dedans.
Ils ont aussi enlevé le grec, le latin, la techno, la physique. Si on regarde le programme de 6e, effectivement, il a beaucoup
perdu. C'est très dur, c'est très dur. Alors on enlève des... On enlève quoi ? On enlève des terrains qui peuvent être des terrains de réussite pour les enfants. Alors, il y en a qui disent « ça sert à rien, de toute façon, comme c'est secondaire ». C'est terrible. Si on considère qu'il y a des matières qui servent à rien, ça veut dire que quand les enfants réussissent là, ils peuvent, on ne peut pas élargir cette réussite qu'ils font aux autres matières, à ce qui est dit, même des matières principales, qui ne sont pas des matières principales, qui sont des matières... voilà, c'est les maths, l'enseignement du français, l'enseignement des langues, de l'anglais, oui, c'est des matières comme les autres. En tout cas, le fait que des enfants ne puissent pas réussir à des endroits où ils peuvent réussir ailleurs, dans ce qui est secondaire, c'est une perte considérable pour gagner des temps de réussite.
Et en fait, je voulais aussi que tu nous parles de ces groupes de niveau. On peut penser quand même que lorsqu'un enfant très jeune, puisque ça commencera, enfin, c'est le début de sixième, va se retrouver dans un groupe de nuls, comment on peut envisager qu'il puisse changer de groupe ?
On pourrait l'envisager, mais c'est le défaut, c'est que dans la pratique, ça se fait très peu ou jamais.
D'accord.
Parce que les emplois du temps d'un collège de 600 élèves, avec 90 profs, c'est vraiment un casse-tête. On peut mettre l'intelligence artificielle qu'on veut, une fois que l'emploi du temps est fait, il est difficile à modifier. Une fois que les enfants sont dans des groupes, il faudrait qu'ils puissent passer... Ça, c'est l'argument des groupes de niveau. Il faudrait qu'ils puissent passer dans un groupe supérieur. Mais comme ce n'est pas sur le terrain ni très facile, ni même possible les trois quarts du temps, ça ne se produit pas. Alors on dit, ah, oh, mais c'est un manque de moyens, ah, mais ça ne peut pas marcher, l'idée est bonne. Non. Le fond, c'est que l'idée n'est pas bonne. Il faut voir la tête des profs quand ils reçoivent leurs heures dans les niveaux faibles. Ils ne se sentent pas au même niveau que les profs qui ont les meilleurs élèves dans les meilleurs groupes. Pas du tout. Déjà, le prof a des attentes sur sa vie professionnelle qui va faire du dégât avec les élèves. Il va aider les élèves, certes, mais la plupart du temps en reprenant des bases, c'est-à-dire en revoyant des choses que le prof, ça ne l'intéresse plus, ça. Ça devrait être acquis. Et c'est pas acquis, c'est une situation d'échec pour lui. Il a sur le dos, non pas un échec personnel, mais l'échec d'une institution qu'il transforme en échec personnel. Comment voulez-vous que dans cet état d'esprit, il fasse réussir les mômes ? Ses attentes deviennent négatives, les mômes le ressentent. De toute façon, les mômes savent très bien. Alors on peut camoufler les niveaux en Berlioz, Wagner et... Et Mozart, les mômes, après deux trimestres, ils savent que s'ils sont devenus Mozart, c'est pas eux les enfants doués. Donc, c'est la catastrophe. Donc, les attentes sont mauvaises. Les parents, ils reçoivent ces attentes-là. Les mômes naturalisent ces attentes-là. Dans des groupes de niveau, il y a eu du retard en lecture. Par exemple, tous les mômes qui entrent en CP... Ils arrivent avec des rapports à la lecture différents selon leur milieu. On pourrait dire, au positif, c'est formidable. Ceux qui savent lire vont apprendre ceux qui ne savent pas lire. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. On le sait depuis le travail de l'Association française pour la lecture. On sait bien que la coopération dans les savoirs, c'est vraiment...
Essentiel.
Une possibilité avancée sur les savoirs eux-mêmes. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Les mômes vont s'apercevoir qu'il y en a qui savent, par leur milieu, et eux, ils ne savent pas. Or, on leur a dit, tu vas passer à la grande école et tu vas savoir lire. On ne leur a pas dit, tu vas apprendre à lire, tu vas savoir. Le choc des savoirs, c'est ça. J'arrive dans la grande école et je pleure le soir parce que je ne sais pas lire et que les autres savent lire. Mais ça, on le trouve. Avant, on le trouvait en maternelle, parce que... Marguerite Duras avait dit « Les enfants pleurent à l'entrée de la classe maternelle parce qu'ils comprennent bien que leur maman les abandonne. » Comme le papa n'est pas là, c'est la maman qui porte tout. Ça l'apprendra. Ça l'apprendra à être mère, qui est une malédiction, paraît-il.
On va peut-être écouter un peu de musique, là.
Pour élever le niveau des élèves, j'avais lancé le choc des savoirs, il doit maintenant se déployer. Le choc des savoirs, c'est assumer que tout le monde ne progresse pas au même rythme. Et les groupes de niveau commenceront à se mettre en place dès cette année dans nos collèges.
Il y a celui qui s'amuse, qui a la tête au basket plus que dans ses cahiers. Qui se dit qu'à la cantine, avec un peu de bol, ce sera le jour des beignets. Nous rappelle qu'à 11 ans, on a encore le temps de prendre du bon temps. Il reste encore tout le reste pour se mettre à bosser quand on est un enfant. Celui-là, on le met où ? Celui-là, on le met où ?
Y a celle qui va pas bien parce qu'à la maison, c'est un peu le bazar. Faudrait pouvoir parler peut-être avec quelqu'un avant le cours d'histoire. Mais y a pas d'infirmière, y a que le club bien-être et la dernière fois. Elle a pas pu parler, les mots sont pas venus, elle n'y reviendra pas. Celle-là, on la met où ? Celle-là, on la met où ?
Y a celui qui arrive car il s'est fait virer du collège d'à côté. Il traîne son Eastpak avec sa seconde chance dans un nouveau quartier. Mais les groupes sont à 30, on n'a même plus la place pour mettre un tabouret. Il resterait bien une classe où ils ne sont que 15, c'est le groupe des mauvais. Celui-là, on le met où ? Celui-là, on le met où ?
Y'a celle qui débarque, des souvenirs plein la tête, tout fraîchement d'Ukraine. De première de la classe, dans son ancienne école, se retrouve à la traîne. C'est grâce à Google Trad déjà qu'on lui explique comment se réinventer. Alors si on pouvait, on aimerait éviter de la stigmatiser. Celle-là, on la met où ? Celle-là, on la met où ?
Y'a celle qui est dyslexique, pour qui les mots s'agitent quand ils sont sous son nez. Oui, mais quand elle nous parle, avec ses mots nous charme sans peur de s'exprimer. Celle qui, sur le papier, ne fait pas de prouesses et rafle les zéros. Elle est pas toute la classe quand, grâce au livre audio, elle fait revivre Hugo. Celle-là, on la met où ? Celle-là, on la met où ?
Et celui qui apprend l'éducation civique pour le test de mardi. C'est sur les droits de l'homme, y'a plein de mots compliqués, mais il s'en est sorti. Surtout l'article 2, c'est sur l'éducation qui vise à renforcer la personnalité humaine, les droits de l'homme et puis la liberté. Celui-là, on le met où ? Celui-là, on le met où ?
Nous, on veut un collège qui donne le goût d'apprendre et confiance à chacun. Où c'est pas la compète et qui, pour réussir, leur donne de vrais moyens. Faudra leur expliquer, c'est à cause de PISA que tous ces pis-allés. Nous, on n'a pas le niveau pour les groupes de niveau, mais on a plein d'idées.
On nous parle de théâtre.
Ça, c'est du cinéma.
Nous venons d'écouter le groupe De Niveau, DE plus loin NIVO, un collectif de professeurs de Nantes qui ont fait cette excellente chanson justement, tout en étant en grève bien entendu. On va peut-être passer à l'agenda militant. Et donc Sandra, tu voulais nous parler d'une initiative du collectif Fauché Solidaire.
Alors effectivement, samedi 13 avril, donc c'est samedi prochain, le collectif vous donne rendez-vous pour une rencontre femmes, chômage, autonomie. Donc à la Halle des Douves, une rencontre au débat avec l'autrice qui viendra présenter son bouquin et discuter avec nous.
C'est très intéressant. Alors vous savez comme moi, le 25 avril, eh ben, c'était l'anniversaire de la Révolution portugaise. Et donc si on en est à 30 ans maintenant.
Au moins.
Je crois que c'est plus.
Non, c'est plus, je crois.
Et donc, il y a une grande fête anniversaire de cette révolution portugaise qui se tiendra à Léognan le 28 avril avec la présence du ministre des Affaires étrangères du Portugal et tout un programme extrêmement alléchant. Donc, je vous incite, bien sûr, à vous renseigner et à participer à cette, pour une fois qu'on a quelque chose à fêter, je dirais, en termes de révolution. Ensuite, tu avais autre chose.
J'avais autre chose. Je rejoins largement Michel Ducombe, là, qui vient de nous.
Salut,